choses. Il fait l'homme, toute créature. Et il aime l'humanité. Et il positionne l'homme dans une position tout à fait particulière, une position que jamais aucun être n'aurait et que jamais aucun être n'aura. L'homme est positionné de manière exceptionnelle. Alors, de cette manière, on peut voir que l'homme a une proximité avec Dieu, une proximité, une intimité avec Dieu. Imaginez-vous que Dieu, tous les soirs, il vient et puis il marche avec Adam et Ève, il leur parle. À ce moment-là, il n'y a aucune notion de foi. La foi est innée chez eux. Ils sont avec Dieu, ils sont constamment dans la présence de Dieu. Et j'aimerais vous dire que Dieu les a créés pour gouverner comme lui gouverne. Et comment Dieu gouverne ? Dieu ne gouverne pas comme toutes ces sortes d'autorités qu'on peut voir autour de nous, tous ces présidents, où il y a une autorité qui quelque part oppresse les gens. Dieu gouverne en responsabilisant et en protégeant. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand Dieu a fait Adam et Ève, il leur a dit, ici vous allez faire attention à ça, mais je vous donne maintenant l'autorité pour faire ceci, cela et cela. Et le soir, ils venaient voir ce qu'ils avaient fait et ils partageaient ensemble. Donc Dieu vous responsabilise. Dieu vous donne cette autorité. Mais il y a un grain de sable qui est rentré dans la machine. Un grain de sable à un moment donné. Satan avait déjà été déchu. Il avait déjà été déchu. Et il n'y a jamais eu aucun combat entre Dieu et Satan. Satan n'avait aucune autorité. Suivez-moi bien là. Aucune autorité. Mais une farouche haine était en lui pour Dieu. Une farouche haine était en lui envers les choses de Dieu. L'homme à qui Dieu avait donné cette autorité était finalement directement haï de Satan. Donc il n'y a pas de guerre entre Dieu et Satan, mais il y a une opposition entre l'homme et Satan. Et cette opposition commence dans le jardin d'Éden. Tout était bien pour Satan et Ève, pour Adam et Ève. Le plan était lancé. Ils avaient une belle vie dans la présence de Dieu. Ils pouvaient faire des choses. Ils avaient une capacité extraordinaire, une position extraordinaire. Et Satan, il vient et il commence à les tenter. Et au moment de la tentation, vous savez tout ce qui s'est passé. Adam et Ève ont chuté. Ils ont péché. Et le péché entre maintenant. Le péché entre chez Adam et Ève, dans leur corps, dans leur vie. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui en découle? Qu'est-ce qui en découle ? Il en découle quasiment immédiatement la séparation de leur relation avec Dieu. Dieu vient les voir et maintenant il dit mais je vous avais protégé, je vous avais dit de faire attention et finalement maintenant vous avez cédé et le péché est rentré en vous. Le péché est rentré en vous, je peux plus rester là moi. Vous comprenez ? Alors qu'ils étaient sous l'autorité de Dieu, ils ont fait un pas et sont passés sous l'autorité de Satan, sous l'influence de Satan. Et maintenant, Satan, qui n'avait strictement aucune autorité, récupère. Quelque part, Adam et Ève ont livré leur autorité à Satan. Et Satan commence à avoir de l'importance. Satan devient alors le prince de ce monde. Le prince de ce monde. Est-ce que vous me suivez ? L'humanité devient alors esclave du péché. On a entendu que Jésus nous a sauvés. On a entendu que Jésus est mort. On a parlé de la croix. On a parlé de toutes ces choses. Mais c'est parce qu'au commencement, il s'est passé ça. Si on ne comprend pas ce qui s'est passé au début, eh bien, on peut lever les mains. On peut dire, Jésus, tu m'as sauvé. Mais tu m'as sauvé de quoi ? Tu m'as libéré de quoi ? De la cigarette ? Non, ça c'est les conséquences. C'est bien avant le péché originel qui maintenant a souillé notre corps. Je suis pas parfait, tu n'es pas parfait. Et alors que tu fais des arcs-en-ciel, hein, bleu, jaune, vert, tu dis Alléluia Seigneur, on l'a fait ce matin. Mais tu dois savoir de quoi tu as été sauvé. De l'esclavage, de l'influence de Satan sur ta vie. Vous me suivez toujours ? Et c'est pourquoi on a vu que Dieu qui a aimé l'homme, lui a donné cette position particulière. Et son amour, c'est pas parce que l'homme a péché que l'amour de Dieu s'est quelque part évaporé. Dieu a toujours aimé l'homme. Et c'est pour ça qu'on passe maintenant des milliers d'années et Dieu envoie son fils. Il se fait homme maintenant. Et il vient sur terre. Et il dit maintenant, moi, j'ai une œuvre à accomplir. Et Satan sait très bien ce qu'il va faire. Il sait très bien ce que Jésus est venu faire. Il est pas bête. Il sait qu'à un moment donné, à une époque, il a volé quelque chose. Et il sait ce que Jésus est venu faire. Et il lui dira au moment de la troisième tentation, si vous vous souvenez bien, quand Jésus est emmené dans le désert, il s'est fait baptiser. Et Satan va dire à Jésus, va lui dire, mais si tu m'adores maintenant si tu me loues, regarde tout ce que j'ai, et ben je vais te le rendre. Mais dans ce verset-là, il dit, regarde ce que j'ai, ça m'a été livré. Ça lui a été livré dès le commencement. On lui a donné la possibilité de gouverner. On lui a donné la possibilité d'avoir de l'autorité. Et Jésus est venu pour récupérer ça. Parce que Dieu a pour plan de travailler en collaboration avec l'homme. Il a pour plan de travailler avec l'homme. Pas de gouverner, de lui dire tu feras ceci, tu feras cela. Non, il voulait dès le début travailler en collaboration avec toi, avec Adam et Ève, en les responsabilisant, en les protégeant. Alors Jésus vient là. Jésus meurt, on l'a vu ce matin. Mais avant de mourir, il a vécu une vie tout à fait parfaite. Alors que tout homme sur cette terre était faillible, alors que tout homme sur cette terre était quelque part faible dans leurs attitudes, dans leur chair, dans leur dessein, dans leurs envies, il y avait toujours du mauvais. Jésus, lui, était parfait. Jésus a vécu de manière parfaite. Et cette manière de vivre était déjà une victoire en soi. C'était déjà la victoire sur l'influence de Satan sur l'humanité. C'était une victoire exceptionnelle. Mais il fallait qu'il meure. On l'a vu ce matin. Il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il meure pour nous laver, pour nous libérer de ce péché et quelque part pour devenir le filtre entre Dieu et l'homme. Le filtre. Où maintenant Dieu allait nous regarder au travers du sacrifice de Jésus et nous allait nous considérer comme lavés, comme purs de ce péché originel. Ça va toujours? Ça va toujours? Oh! Alors, Jésus vient et pour que j'ai. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un week-end exceptionnel, la Pâque. Ça se fête dans tout le monde, dans les églises, dans le monde entier, on fête la Pâque. On est content. Vous voyez, ce matin, on était heureux d'être ensemble, dire Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as libéré. Mais j'aimerais te dire que finalement, aujourd'hui, ce jour, cette fête de la Pâque ne va strictement rien changer pour toi. Ce jour, aujourd'hui, est un jour comme les autres. Le petit repas que tu as fait avec ta famille, la chasse aux œufs que tu as prévu. Moi, j'ai prévu une chasse aux œufs cet après-midi. Ça ne va rien changer dans ma vie. Mais ce qui change quelque chose, c'est la foi en Jésus-Christ. Parce que par la foi en Jésus-Christ maintenant, par la foi en Jésus-Christ, celui qui a dépouillé maintenant Satan, tu viens et tu récupères ton intimité avec Dieu, autrefois perdue. Tu récupères cette intimité, tu récupères cette proximité. C'est ça qui change dans ta vie. C'est pas ce week-end, c'est pas le jour férié de lundi qui va changer quelque chose. C'est ta foi en Jésus-Christ. Et ta foi en Jésus-Christ est finalement le fondement, la base, ce qui soutient ton salut. On est d'accord sur ça. Alors que vous êtes assis, si j'enlève cette chaise maintenant, tu tombes. Si j'enlève ta foi maintenant, tu tombes. Parce que Jésus, quand il est mort, il fallait qu'il ressuscite, il fallait qu'il brise maintenant le joug de la mort sur nos vies, et il fallait maintenant qu'il récupère cette autorité et que par la foi en lui, on puisse dire mais je suis soutenu maintenant. C'est un don, c'est pas par mes forces, c'est pas parce que j'ai fait, c'est parce que Jésus est mort pour moi. Et voilà l'importance de la résurrection. Ça te relève. Alors on va lire maintenant. Maintenant, j'ai beaucoup parlé, maintenant on va lire. Et j'aimerais qu'on puisse finalement aller voir plus loin. Oui, Jésus est mort. Oui, Jésus est ressuscité. Mais qu'est-ce que ça change dans ma vie? Qu'est-ce que ça change? Moi, je suis jeune. Et si c'est juste pour croire que quelque part, il y a quelqu'un qui est mort pour moi, qui m'a lavé de quelque chose que je n'ai pas fait, ça ne m'intéresse pas parce que ça ne m'impacte pas concrètement. Est-ce que vous me suivez? Ça ne m'impacte pas concrètement, mais ce que Jésus a fait était très concret. Était très concret. Il est venu sur cette terre de manière concrète. Il est mort à la croix de Golgotha de manière concrète. Il est ressuscité de manière concrète. Et maintenant, il vit de manière concrète. Il est vivant. Il est là, il est dans ce lieu. Il est là. Il est là. Et quand je dis il est là, est-ce que ça fait quelque chose en toi? Commence maintenant à regarder ton état de cœur. Et dis-toi que Jésus est là. Jésus est mort concrètement. Il est mort véritablement. C'est réel. Alors on va lire Luc chapitre 18 versets 35 à 43. Et on va voir quel est le type de foi que Jésus reconnaît. Chapitre 18 versets 35 à 43. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda qui c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il cria alors beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse ? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Est-ce que tu peux me donner le verre d'eau, s'il te plaît ? Alors, ta foi t'a sauvé, c'est ça qui est important. Ta foi t'a sauvé. Dieu reconnaît notre foi. Dieu se nourrit de notre foi. Dieu se nourrit de notre foi. Et on voit là que il vient de manière à... Il entend parler de Jésus. Une foule passe. Il est là, il est aveugle, il y a un problème dans sa vie. Et il entend Jésus passer. Il avait certainement entendu des échos de ce dont était capable Jésus. Ce qu'il était, ce qu'il faisait, son œuvre. Et il l'entend passer et on lui dit, c'est Jésus qui passe. Et lui, tout de suite, il y a quelque chose qui le saisit à l'intérieur de lui. C'est Jésus. Il faut qu'il prie pour moi. Il faut qu'il se passe quelque chose aujourd'hui. Et là, quelque chose est saisi au-dedans de lui. On lui dit, m'arrête. Mais lui, c'est plus fort que lui. Il dit, aie pitié de moi. Entends-moi maintenant. Entends-moi. J'ai besoin qu'il se passe quelque chose. Il va vers Jésus et qu'est-ce que lui répond le dit Jésus? Jésus lui dit juste, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Et il lui dit que je recouvre la vue. Il lui expose son problème. Mais il lui expose son problème de manière, c'est comme si c'était déjà fait. Il lui dit, mais que je recouvre la vue maintenant. J'ai ce désir, c'est en moi, il faut qu'il se passe quelque chose maintenant. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Il ne dit pas, je t'ai sauvé. Il dit, ta foi t'a sauvé. C'est cette foi-là qui va soutenir maintenant sa guérison. C'est cette foi-là qui va être la base de sa guérison. Parce qu'il a cru, en entendant passer Jésus, que ce Jésus-là allait pouvoir faire quelque chose. Et on voit clairement que Jésus répond à sa foi, répond pas à son attitude, ne répond pas à ses sentiments, ne répond pas finalement à son raisonnement, mais il répond à sa foi. Et laisse-moi te dire que la foi est tout sauf intellectuelle. La foi est tout sauf sentimentale. La foi, c'est le point de contact. Le point de contact entre le naturel et le surnaturel. La foi, c'est le point de contact entre toi et Dieu. Et il se passe quelque chose. Prochaine lecture. Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 27. Alors, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Dans la version Semeur, on peut voir « Où est votre foi ?» Et là, il leur dit « Gens de peu de foi !» Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Je vais relire ça. « Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Ici, Jésus a une attitude différente. Il est avec ses disciples. Et les disciples, c'était pour la plupart des hommes de mer. Ils connaissaient la mer, ils savaient naviguer. Et finalement, ils arrivent à un moment donné où tout ce qu'ils savent faire, toute leur connaissance, toute leur maîtrise de la barque, de l'embarcation, leur connaissance vis-à-vis de la mer, de ce qui se passe autour, est limitée. Il y a les flots qui s'abattent sur la barque, qui touchent la barque, qui rentrent dans la barque. Et là, ils disent « Mais c'est plus possible !» Ils savent que s'il ne se passe pas quelque chose, ils vont mourir. Et ils crient « Jésus, réveille-toi, nous périssons !»« Réveille-toi, nous périssons !» Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Il se réveille et il leur dit, verset 26, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Et ce matin, j'aimerais te dire « Où est ta foi ? Où est ta foi ? Où est ta foi ?» Parce que ta vie est peut-être menacée par les vagues, par les torrents, par tout ce qui peut se passer. Et laisse-moi te dire, comme on l'a vu plus tôt, que Satan, oui, s'oppose à toi. Et il s'opposera toujours à toi. Il s'opposera toujours à ta foi. Toujours il s'opposera à toi. Et je veux te dire, où est ta foi ? Où est ta foi ? Gens de peu de foi, il leur dit. Et là, il menace le vent et la tempête, et la tempête se calme. Jésus est toujours là. Jésus est toujours dans ta barque. Il est fidèle. Mais il s'attend à quelque chose de plus. Moi, quand je lis ça, je me dis, mais Jésus s'attend à quelque chose de plus. À quelque chose de plus qu'être convaincu de son salut. À quelque chose de plus que d'être convaincu qu'il est le Seigneur. Ils le savaient, les disciples. Ils savaient à qui ils avaient affaire. Mais Jésus leur dit pourtant, vous savez qui je suis. Mais gens de peu de foi, gens de peu de foi, Jésus s'attend là à quelque chose de plus, au petit grain qui va faire que ce n'est pas Jésus qui va agir. Est-ce que vous me suivez ? Oh Seigneur, gens de peu de foi. Alléluia. Dieu, parfois dans notre être, on peut être totalement, notre foi peut être totalement, totalement écrasée. Il peut ne rester plus que des miettes. Et alors que tu te retrouves dans des situations difficiles dans ta vie, alors que la mer s'agite dans ta vie, t'aimerais crier à Dieu, mais il ne reste plus rien. Tu crois toujours dans ta tête, ton intellectualité, ton Dieu, oui, ton Dieu est ton Dieu, mais il ne se passe pas quelque chose. Tu as besoin d'une intervention divine et il ne se passe rien. Parce que ta foi est quelque part écrasée, étouffée. Et Dieu te dit, mais où est ta foi ? J'ai envie d'agir pour toi. Parce que moi, je t'aime. Parce que moi, je t'ai sauvé. Parce que moi, je veux collaborer avec toi. Je veux te donner cette autorité. Je vais vous donner un petit témoignage. Alors que Timothée était malade, c'était mon deuxième enfant et j'ai été touché. Et puis, on se retrouve à l'hôpital et on m'annonce le pronostic et tout ça. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Quand les pronostics arrivaient, ma foi, plus ça arrivait, plus ma foi diminuait. Au plus tout ce que je proclamais, au plus tout ce que je disais, c'était étouffé, ça avait plus de valeur, vous me suivez ? Et là, j'étais dans cette chambre, il y avait trois facteurs. Une fièvre intense depuis quelques heures, quelques jours. Une respiration qui était totalement... il ne respirait plus et il ne se nourrissait plus. Ça faisait trois facteurs. Et on était là, on était accablés, c'était avant Noël. Et j'étais assis dans cette chambre-là et j'étais dans ma pensée. Et je disais, Seigneur, ce n'est pas possible. C'est un enfant. Mais lui... il ne peut pas croire, là. C'est comme si, lui, sa foi, elle est là, sa foi. S'il doit se passer quelque chose, ça doit passer par moi, ça doit passer par ma foi à moi. Ça doit venir de là. Mais regarde mon état maintenant. C'est pas possible. Ça correspond pas à ce en quoi je crois, à ce en quoi j'ai déjà vécu. Et là, le Seigneur m'a dit, lève-toi maintenant. Relève la tête. Où est ta foi? Lève-toi, relève la tête. Et ce matin, je te dis, lève-toi, relève ta tête dans tes difficultés. Et je me suis levé, Chanel était là. Et j'ai commencé à marcher, et j'ai commencé à prier, j'ai commencé à proclamer. J'ai dit, Seigneur, tu es mon Dieu maintenant. Seigneur, tu es mon roi maintenant. Seigneur, tu domines sur les circonstances. J'ai commencé à proclamer. Et ma foi qui était alors écrasée a commencé à naître de nouveau. Elle a commencé à s'embraser et ça bouillonnait en moi. Mon cœur réagissait. Vous voyez, ce matin, je réagis au fait d'être ici. C'est la première fois, c'est normal, j'ai peur. Je tremble, je réagis. Mon corps réagit. Mais face à Dieu, ton corps réagit. Face à la foi, ton corps réagit. Et alors là, je réagissais. Il se passait quelque chose. Chanel se demandait quoi. Elle me regardait comme ça. Je bougeais partout. J'étais là, Seigneur, et tout ça. Et puis, à un moment donné, Dieu me dit, mais commence à prier en pourcentage pour ton fils. Et j'étais là, Seigneur, maintenant tu me donnes 2% de la guérison. Il y avait un combat. Et le combat, c'était pas entre Dieu et moi. Le combat, c'était entre Satan et moi. Entre l'esprit qui était en moi et Satan, qui était en train d'essayer de nous terrasser. Et j'ai dit, maintenant, Seigneur, tu me donnes 1%. Et les pourcentages venaient d'eux-mêmes. J'inventais pas les pourcentages. Ils venaient. Et quand je proclamais un pourcentage, en moi, la foi grandissait encore. Et arriva à 33%. Le Seigneur me dit, maintenant, tu chasses la fièvre. Et j'ai dit, maintenant, la fièvre, dans le nom de Jésus, tu sors. Instantanément, le médecin rentre, prend la température de Timothée, plus de fièvre. Et je me suis retrouvé là et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais vécu un moment de foi avec mon Dieu. Un moment de foi avec mon Dieu qui n'est pas explicable. Et ce matin, on a entendu qu'il est mort. On a entendu qu'il est ressuscité. On a entendu tout ça. Et c'est pour que tu ailles plus loin. Dieu te donne l'autorité. Amen. Oh Jésus, saisis-nous ce matin. Alors, on va lire Actes des Apôtres maintenant, chapitre 16. On va aller plus loin. Chapitre 16. Jésus n'est déjà plus là. Chapitre 16, verset... Je t'avais donné quoi, Rebecca ? Verset 23, je pense. Non, 22. Verset 22 à 31. Un long passage, mais très intéressant. La foule... On parle de Paul et Silas. Le contexte, je vous donne le contexte parce qu'on va pas tout lire. Paul et Silas, alors qu'ils se dirigent dans une ville, il y a une dame qui les suit et cette dame était possédée. Et Paul, au bout d'un moment, il en avait marre. Et il dit maintenant, esprit impur, tu sors. Il prend l'autorité et l'esprit s'en va. Mais là, ça provoque une réaction. Une réaction. Et là, on va lire la réaction des gens. La foule se souleva, la foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un bruit de tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se révéla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » On verra plus loin que sa famille et lui-même étaient sauvés. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, alors que Paul et Silas, on saisit Paul et Silas. On commence à les déshabiller. Rien que ça, imaginez ça. Imaginez ça. On vous prend. On vous déshabille. C'est-à-dire qu'on vous enlève toute votre dignité. toute votre dignité. Instantanément, vous êtes devant une foule, on vous enlève votre dignité. Et là, on commence à les battre. On les bat. Ils ont mal, ils souffrent. Leur chair est à vif. Et on ordonne qu'on les mette dans la prison intérieure. La prison intérieure à cette époque était une prison, la prison la mieux gardée, était un endroit de la prison très gardé. Mais ce n'était pas un endroit facile à vivre, c'était juste un endroit où vous surviviez, vous tentiez de survivre. Et à ce moment-là, le geôlier prend une précaution supplémentaire et il leur attache les ceps. Les ceps aux pieds, c'était quoi ? C'était des pièces métalliques où on les maintenait avec les jambes écartées comme ça. Vous êtes nus, on vous a frappé, vous avez mal, vous souffrez, on vous attache. Les ceps aux pieds procuraient de grandes crampes, des douleurs terribles. Vous souffrez terriblement. Et on lit quoi ? On lit au verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Moi, ça me met une claque quand je lis ça. Ils priaient et ils chantaient les louanges de Dieu. Moi, je ne pense pas qu'ils se soient dit, allez les amis, on va se faire une petite soirée louange. On va se faire une soirée louange. On va se faire du bien ce soir. On va se caresser spirituellement. Vous savez, des fois, on aime bien se caresser spirituellement. On va mettre des louanges. Ça fait du bien, c'est bien. Et on se caresse. Et une petite, j'appelle ça les cosmétiques spirituels. Une petite pommade. Seigneur, je te loue, tu es bon, ça nous fait du bien. Mais là, ce n'était pas dans cet objectif-là. Ils ne dormaient pas, ils n'arrivaient pas à dormir. Ils avaient mal, ils souffraient. Ils n'arrivaient pas à dormir. Douleur atroce, crampes. Et eux, ils font le choix à ce moment-là. Ils font le choix de louer, d'adorer Dieu. Ils font ce choix-là. Ils font ce choix-là. Pourquoi ? Parce que la foi qui est en eux, Dieu les a responsabilisés. Ils prennent leur responsabilité. Ma foi, maintenant, je vais élever le niveau de ma foi. Je vais élever le niveau de ma foi pour qu'il commence à se passer quelque chose. On peut lire dans le verset avant que les prisonniers tout entiers entendaient. Ils entendaient Paul et Silas. Et ils disaient, mais ils sont fous ceux-là. Regardez leur situation. Ils ont mal, ils ont été battus. Et eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils louent Dieu pour les prisonniers autour d'eux. C'était des fous. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont dans la même situation. Mais il ne va rien se passer. Et eux, ils louent Dieu. Ils entendaient. Et on lit plus loin. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'au moment où ils ont loué Dieu, alors que Satan s'opposait à eux, Satan avait essayé de complètement les enlever leur dignité, de les casser moralement, de les casser dans leur corps même. Mais ils n'avaient pas perdu leur foi. Ils n'avaient pas perdu leur foi. Alors que tous les prisonniers entendaient, on entend quoi ? Que la prison fut ébranlée dans ses fondements. Et voilà ce qui se passe. Maintenant, les chaînes de tous les prisonniers sont brisées. Quatrième point ce matin. Ta foi doit profiter aux autres. Ta foi doit impacter les autres. Si ta foi n'impacte pas les autres, tu es encore dans cette dimension de foi où c'est le salut pour toi, le salut pour toi, le salut pour toi, le salut pour toi. Mais ce que nous montrent Paul et Silas, c'est que leur foi avait une percussion là. Ils louent Dieu. Alors ceux qui se moquaient d'eux, maintenant reconnaissent qui est Dieu. Ceux qui étaient en train de se moquer avant reconnaissent qui est Dieu. Il s'est manifesté. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Alors pour conclure, j'aimerais vous dire que Dieu te donne une responsabilité. Quand il est mort à la croix de Golgotha, il est mort concrètement. Il est ressuscité concrètement. Il te fait ce don de la foi. La foi soutient maintenant ta vie. La foi soutient maintenant ta relation avec Dieu. La foi soutient toutes ces choses qu'on avait perdues à la base. Et Jésus, en brisant les liens de la mort, te redonne cette autorité par la foi en lui. Mais parfois, les réalités de ton quotidien peuvent être beaucoup plus lourdes à porter que la réalité de la foi dans ton cœur. Ta foi, elle est étouffée. Ta foi n'est pas vivante. Il manque quelque chose. Et moi, je te dis ce matin, où est ta foi ? Jésus est ressuscité pour que ta foi soit agissante. Ta foi soit agissante, ta foi soit percutante. C'est facile pour personne, mais c'est une réalité. que ta foi agisse. Et Jésus est le maître. On peut le voir dans cette situation. Jésus est le maître pour envahir, je dis bien envahir les situations impossibles. Si tu ne crois pas en ça, si tu ne crois pas en ça, mais il y a un problème avec ta foi. Il faut que ta foi soit attisée. Il faut qu'elle brûle, il faut que ça brûle en toi, que ça te consume. Je vais vous donner un deuxième témoignage. Vous le connaissez quasiment tous. Alors qu'on avait fait le premier culte du dimanche matin ici à Waterloo, on est parti, je ne sais pas si pour ceux qui se souviennent, à la première de Arras. On avait fait un culte en commun ensemble à Arras. Et alors, le fait d'avoir loué Dieu toute la journée, le fait d'être rentré dans sa présence, deux cultes d'affilée, la foi avait grandi en moi. La foi avait grandi en moi. Je me sentais bien. C'est ce que produit la foi. Ce n'est pas parce que tu as compris quelque chose. On dit souvent, tu as compris que les sandales de Paul étaient marrons, que ça va changer quelque chose dans ta vie. Rien changé du tout. Mais c'est que ta foi est attisée quelque part. Et alors ma foi, elle était là. Et on était dans la voiture et les enfants dormaient. Moi, j'étais là et on avait le problème de la sixième vitesse dans la voiture. Elle ne se passait plus. On n'avait plus de sous avec Chanel. Et je dis, Chanel, il ne faut plus me parler de cette voiture. J'en ai marre. Il ne faut plus m'en parler. Il ne faut plus m'en parler. On a dépensé trop de sous là-dedans. Et voilà, je ne réparerai pas. Ça cassera quand ça cassera. C'était déjà cassé. Et alors, j'étais là, je conduisais ma voiture. Et là, le Saint-Esprit me dit, maintenant, si tu passes ta vitesse avec la foi, elle va passer. Moi, dans mon cœur, il y a quelque chose qui a résonné. J'étais en train de prier et en moi, ça a commencé à brûler. C'est passé de l'intellectuel, du sentimental, à quelque chose d'autre. Ça ne s'explique pas. La foi ne s'explique pas, la foi se vit. Et alors, j'étais là et qu'est-ce qui se passe, Chanel? Et moi, ça bouillonnait. Et je la passe, elle ne passe pas. Et la deuxième fois, passe maintenant ta vitesse avec la foi. Ça ne passe pas. Et là, le Saint-Esprit me dit, ça, ce n'est pas la foi. Maintenant, passe ta vitesse avec la foi. Et là, le feu a grandi en moi. Et j'ai dit, maintenant, cette vitesse, elle passe. Et la vitesse est passée. Ma voiture instantanément réparée. Instantanément réparé. Mon beau-père qui avait roulé avec 2 heures avant m'avait dit ta voiture est cassée. Je l'ai appelé, j'ai dit tu te rends compte, j'ai prié pour ma voiture et elle est réparée. Mais il dit c'est pas possible, j'ai roulé, elle va pas. J'ai dit elle est réparée. Chanel me regarde et me dit mais qu'est-ce que t'es... Oh. À la deuxième fois Chanel me dit qu'est-ce que t'es en train de faire. Je réponds pas, je passe à la troisième fois, la voiture est réparée. Chanel me dit, on se regarde comme ça, on n'avait pas compris ce qui s'était passé. C'était pas explicable. Et j'appelle mon beau-père, je lui témoigne de ça. Et lui, il y avait un problème de toilette. Et ça a teasé la foi en lui. Il devait dépenser un Sony broyeur. Vous savez combien ça coûte, c'est cher. Et lui, il a dit, Seigneur, c'est pas possible. Si mon beau-fils, il se passe quelque chose, maintenant, tu guéris mon toilette. Et son toilette a été guérie. La foi est communicative. Ta foi doit être agissante. Même pour un toilette. Et la leçon que j'ai tirée, c'est que Dieu m'a dit, même de ta voiture, je m'en occupe. Mais élève ton niveau de foi. Élève ton... une foi percutante. Une foi qui dépasse ta tête. Chrétien sentimental, balayez ça. Chrétien intellectuel, balayez ça. La foi est la même foi pour tout le monde. Pour tout le monde, on est différent, on réagit différemment à la foi. Moi, la foi, quand ça bouillonne en moi, il se passe quelque chose. Mon corps, il peut pas, mais ton corps à toi va réagir différemment. Mais c'est la même foi, c'est la même base. Jésus-Christ, il est vivant. Ça fait combien de temps, chef? Je vais terminer là.